Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Comme à l'habitude, Olivier Brett en compagnie de Jean Gounel et Sydney Faux. Les gars, comment ça va?
Ça va, merci.
Très bien, merci.
Ça va très bien pour moi aussi parce que je vous dirais qu'en termes de contenu, là, par les temps qui courent, d'un Loin de Sans Foot à l'autre, j'ai l'impression qu'on pourrait en faire aux 48 heures, qu'on serait capable de remplir notre temps sans problème. Tellement de sujets d'abord avec l'Impact de Montréal qui a eu un gros transfert de joueurs désignés, Safir Taider qui est parti pour l'Arabie Saoudite, grosse conférence de presse aussi, hier jeudi, du directeur technique Olivier Renard, puis oui, en passant, ils ont joué deux matchs aussi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Du côté de l'Europe, on va parler de suggestions intéressantes d'Arsène Wenger pour des modifications aux changements, aux règlements dans le monde du foot et de la représentation des Américains en Ligue des champions de l'UEFA. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec ce qui se passe du côté de l'Impact de Montréal. À commencer, Sid, par... je ne veux pas revenir sur les deux matchs, peut-être sur la dernière rencontre disputée par l'Impact, parce que là, c'est un paquet de tuiles qui sont tombées sur la tête de l'Impact et de Thierry Henry en même temps, avec une défaite de 3-2 face à la Nouvelle-Angleterre.
Oui, on parle aujourd'hui comme de matchs à ne pas perdre, des must-win, etc. C'est certain qu'il reste maintenant 5 matchs au calendrier. Tous les matchs vont être extrêmement importants pour l'Impact, car de par sa position dans le fond, c'est parce que l'Impact ne peut pas se permettre de perdre des points, sinon elle bascule en dehors des séries. Donc c'est une, il y a plusieurs niveaux d'analyse dans cette dernière défaite. Il y a le début de match, l'entame de match qui reste quand même un point très difficile. Il y a les erreurs individuelles graves. L'Impact aussi a quand même une capacité à avoir des joueurs qui font des erreurs individuelles extrêmement graves, graves dans les conséquences, qui sont très souvent punies. Malheureusement, l'Impact n'a pas vraiment ce luxe de faire une erreur et après d'être capable de se rattraper. Ensuite, il y a le contenu. Quand même, une fois que les 20 minutes la première tempête est passée, on a une équipe joueuse, une équipe qui est quand même capable de proposer quelque chose de très intéressant. Et ça, ça reste une constance dans l'identité, dans le jeu de l'Impact de Montréal dans cette année-là. Malgré les résultats, on peut distinguer un peu le contenu et les résultats. Et encore un autre défaut de l'Impact de Montréal, c'est cette fameuse entame de deuxième mi-temps. Donc on a des problèmes qui deviennent de plus en plus, on va dire peut-être structurels, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en même temps, il y a du positif. Il y a aussi comme des joueurs qui se distinguent, comme Kyoto notamment. Voilà. Donc c'est un petit aperçu finalement même de la saison de l'Impact de Montréal où les mêmes problèmes. Mais aussi les mêmes constats positifs qu'on peut faire sur les matchs, mais au final, un résultat insuffisant, donc à l'image de leur place 10e ou 11e, dépendamment par match ou si on prend les points totaux.
Oui, et tu parles de points positifs. Thierry Henry, on lui a demandé après la rencontre, Jean, est-ce que tu vois des points positifs à retenir de ce match-là? Puis après un long soupir, il a dit, ben, bof, non, pas vraiment. Dans les circonstances, sur ce match-là en particulier, on peut le comprendre. Rod Fanny qui sort blessé, Safir Taider vient d'être transféré, t'as Boyan qui n'est pas disponible, même chose avec Zachary Broguillard, Clément Diop est obligé de rentrer en France pour des raisons personnelles. T'sais, tout ça arrive dans la même journée. C'est compréhensible qu'on le sente un peu à bout de ressources et à bout d'idées parce qu'il se dit, coudonc, ça va finir quand cette histoire-là? Le problème, c'est qu'il y avait le même genre de discours 3 semaines plus tôt. Et là, avec le recul, c'est pas si pire que ça, 3 semaines plus tôt. Et c'est là où on se retrouve avec un Olivier Renard dans la conférence de presse dont on va parler dans quelques instants, qui dit, ben on le sait là, que c'est vraiment compliqué comme scénario, mais il faut un peu, et il n'a pas envoyé son discours directement vers son entraîneur, mais si on lit entre les lignes, il est en train de dire, à quelque part, il faut être un petit peu plus inspirant, il faut parler de solutions plutôt que de parler des problèmes, parce que les problèmes, on les connaît depuis longtemps, on savait que ça s'en venait. C'est pas facile, mais à un moment donné, il faut passer à un autre appel, il faut changer de discours.
C'est sûr. Je dirais, les problèmes, on les connaît, on les voyait venir. Là, je rejoins un petit peu Thierry Henry, ils sont arrivés tous d'un seul coup, en tout cas.
Ah ouais.
Il y en a un paquet qui est... La charge s'est rajoutée brutalement sur quelques heures. Donc, j'arrive à comprendre un petit peu que Henry dise à la fin « Wow ». Qu'est-ce que j'ai à sortir de positif d'aujourd'hui alors que j'ai, en gros, accumulé les tuiles depuis que je me suis levé ce matin. Donc, j'arrive un petit peu à comprendre ce qu'il dit. Par contre, là, je rejoins pas mal l'analyse de Sid. On a quand même pu voir, il aurait pu ressortir ça, disant, on continue, il y a un positif dans le jeu qu'on arrive à voir. C'est certainement loin d'être parfait parce qu'il y a encore beaucoup de négatifs derrière qui viennent torpiller ça un petit peu. Mais dans le jeu, dans ce qu'on veut arriver à amener, on avance dans ce qu'on a un petit peu envisagé. Et oui, on va faire le lien tout à l'heure avec la conférence d'Olivier Renard, mais on sent qu'il y a quand même une identité qui veut se dégager, qui est en train un petit peu de se mettre en place. C'est sûr que cette identité-là, tu ne pourras vraiment la faire progresser qu'une fois que tu auras un petit peu plus de latitude dans les joueurs que tu veux utiliser. Et quand je dis les joueurs, ce n'est pas simplement les 11 mêmes, mais c'est donc les 16, 17 que tu devrais voir sur une bonne partie de la saison. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu de positif. Il est certain que le discours de Thierry Henry était forcément un petit peu marqué après ce match, la défaite venant en plus donc combler ou en tout cas conclure une journée pas mal lourde. Mais je crois qu'il y a aussi des points sur lesquels on peut, et je pense que ça fait partie de ce qu'Olivier Renard a dit, sur lesquels on doit pouvoir s'accrocher.
Bon, Jean, je veux t'entendre en premier sur le transfert de Saphir Taider. Personnellement, pas que ça n'a aucune logique. Moi, je pense que c'est un transfert qui est très intéressant pour le club en ce moment, pour le joueur lui-même, pour le futur de l'Impact en 2021 aussi. Mais personnellement, je ne l'ai pas vu venir au moment où ça a été annoncé. Un transfert vers Al Ain en Arabie Saoudite pour un montant qui n'a pas été divulgué par l'Impact de Montréal. Ta première réaction à ce transfert-là, Jean, ça a été quoi?
Oh, c'était clairement me dire, OK, ça rentre, ça a été probablement, c'est arrivé rapido, c'est arrivé tac-tac, il a fallu prendre une décision conjointement avec les désirs du joueur, très certainement. Mais ça rentre clairement dans le projet à long terme. C'est clairement libérer, alors, ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est la volonté qu'il y a de libérer des places, de se donner. Ce que l'Impact cherche à faire actuellement, c'est se donner de la marge de manœuvre pour continuer son évolution. Le départ de Taider, financièrement, ça permet de libérer une grande blanche place. Ce qui est dommage, c'est que c'est un joueur dont on peut dire qu'il a apporté quelque chose d'intéressant cette année. Peut-être qu'il s'est exprimé un petit peu mieux avec le départ de Piatti. Peut-être qu'il a eu plus de liberté. Je ne sais pas comment le voir de ce côté-là. Mais il a certainement eu un peu plus de rayonnement. Bon, après, je peux lire les commentaires qu'il y a sur lui. Ce n'est pas toujours très, très positif au niveau individualiste, au niveau, par moment, sa tendance, par moment, à s'éteindre complètement dans un match. Mais je pense que, dans cette saison a pas mal compliquée, il a apporté quand même pas mal de choses. C'est pour ça que je suis surpris. Maintenant, dans le grand projet, j'arrive un petit peu à comprendre.
Oui, là où on comprend encore mieux, Sid, c'est que Saphir Taider faisait 3 millions cette année. Je veux dire, s'il était à 1,5 comme Boyan, là, à 3 millions, tu commences à être dans les eaux d'un Nacho Piatti. Je pense que Saphir Taider a été un rouage important, très intéressant, comme Jean le disait, au milieu de terrain pour l'Impact. Mais à 3 millions, à un moment donné, la question se pose, surtout pour le genre de projet qu'Olivier Renard a mis sur la table depuis son arrivée.
Alors moi, je t'avoue que c'est complètement l'information qui m'a le plus surpris de toute l'histoire. Je n'avais aucune conscience que Saphir Taider était à 3 millions. Et il faut rappeler que selon le dévoilement des salaires en 2019, il était listé à 1,5. Donc, c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut la liste de l'association des joueurs, mais du simple au double, c'est très rare. Donc, moi, ça m'a beaucoup surpris. Ensuite, c'est vraiment un transfert que voilà, j'ai refusé de voir venir, puisque finalement je me rends compte qu'il y a 3 semaines j'avais des vrais bruits, mais lorsqu'on m'a dit Arabie Saoudite, je me suis dit mais non, n'importe quoi, comment ça t'a aidé en Arabie Saoudite? Donc j'ai vraiment balayé cette information, puis la personne me l'a rappelé, tiens, je te l'avais dit. mais c'est vrai que c'est comme dit Jean, c'est pour se donner de la marge de manœuvre, c'est pour préparer 2021. Je pense que Olivier Renard a été très clair dessus, sa priorité, son focus est sur l'année 2021, et à 3 millions, mais c'est énorme parce que l'Impact de Montréal se donne comme marge de manœuvre, voyant un petit peu les choix qui ont été faits par le directeur sportif. On peut s'attendre un petit peu comme Joey Saputo l'avait dit il y a 2 ans, j'imagine, plus à plusieurs joueurs joueur 1 million, mettons, qu'un joueur de 3 millions. Donc, c'est assez intéressant de voir des possibilités maintenant qui s'offrent à l'Impact de Montréal.
Encore faut-il, Sid, que Joey Saputo veuille libérer ces 3 millions-là encore pour l'an prochain, plutôt que de dire, ben tiens, ces millions-là sont plus sur la table, on n'est plus engagé à les donner contractuellement à Saphir Taider, ben on va passer à 1,5 si ça ne vous dérange pas.
possible. Après, bon, est-ce que en MLS, est-ce que le rapport est aussi direct entre le budget salarial et les performances sur le terrain? C'est peut-être une ligue où on peut encore être créatif et j'imagine que Olivier Renard en est conscient.
Parlant d'Olivier Renard, qu'est-ce que tu as retenu d'une conférence de presse qui a fait près quoi de 30 minutes, je pense? Je ne sais pas pour toi, là, mais avec des conférences de presse d'avant-match, d'après-match qui viennent tellement vite pour Thierry Henry, on sent une grosse lassitude de la part de l'entraîneur. Tu as l'impression qu'il n'y a pas le goût de les faire, qu'il a juste hâte que ça finisse. Et là, d'avoir un gars qui avait envie de répondre, qui avait des réponses à offrir, qui était... Bon, il a esquivé quelques questions, comme il fait toujours lorsqu'on demande des questions très techniques par rapport à son staff. Olivier Renard est super cohérent par rapport à ça. Il a été questionné sur les changements, par exemple, et les nombreux blessés. Il a balayé ça de côté en disant ça, c'est vraiment au coach qu'il faut poser la question, à savoir est-ce qu'il faut faire plus ou moins de changements. Mais dans l'ensemble, c'est du gros contenu qu'Olivier Renard nous a offert. Tu retiens quoi de sa conférence de presse?
Oui, plusieurs choses. Bon, à la décharge de Thierry Henry, il a apparemment le choix, lui, genre, comme de choisir quand est-ce qu'il fait ou pas des conférences de presse. C'est sûr que Olivier Renard, lui, il décide d'avoir un message à passer et donc convoque les médias. Mais après, c'est effectivement une conférence de presse très généreuse. Il y a quand même un aspect sur la transparence. Moi, j'ai pas forcément aimé la réponse qu'il a donnée, enfin, finalement, la non-réponse sur le montant reçu pour le transfert de Saphir Taider. Donc, bon, on parle souvent de transparence à l'Impact de Montréal. Donc, c'est assez naturel, il revient au galop. Sinon, on a quand même un directeur sportif qui a une vision, qui est cohérent dans ce qu'il fait, qui a une très bonne connaissance des mécanismes de la Ligue. Je pense que la partie sur les green cards, sur les places internationales, sur finalement tout ce qui compose la particularité de la MLS, c'était très très intéressant. Et tu l'as souligné dans ton dernier billet, puis je tiens à le dire, on a encore une fois un joueur qui part satisfait avec l'Impact de Montréal, qui n'est pas fâché avec la direction. Et ça, c'est une signature aussi d'Olivier Renard, parce que ce soit, s'il y aura un match des anciens et qu'il faut appeler Piatti, il sera là. S'il faut appeler Van Busch, il sera là. S'il faut appeler Taider, ils seront là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément dire il y a quelques années à l'Impact de Montréal. Donc, non, Olivier Renard, c'est intéressant. Puis, peut-être un petit mot sur le fait que, bien qu'il ait... on va dire, envoyer un message à l'ensemble de l'organisation, parce que c'est vrai beaucoup pensent que c'est pour Thierry Henry, mais je pense que les joueurs aussi doivent beaucoup se plaindre de la situation au New Jersey, qu'il a voulu, genre, comme dire, que ce n'est pas une excuse. Il a aussi dit qu'il était globalement très satisfait du travail de Thierry Henry, qu'il voit des joueurs qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois, qui maintenant sont parmi les meilleurs de l'effectif, et ça, c'est un peu sa philosophie. Et je trouve ça très intéressant tous les sujets qu'il a parlé dans cette longue et riche conférence de presse.
Je trouve ça intéressant parce qu'on a interprété un petit peu différemment. Moi, ce que j'ai entendu Olivier Renard dire, c'est qu'il était très satisfait de la progression de certains joueurs puis qu'il trouvait qu'au cours des derniers matchs, la philosophie de jeu commençait à prendre. Je n'ai pas tout à fait entendu qu'il était très satisfait du staff et de Thierry Henry lui-même. J'ai entendu la même chose que toi, par contre, le petit message sur « là, on peut-tu être positif un peu? Est-ce qu'on peut changer et commencer à changer de discours? » Tu as tout à fait raison par rapport aux joueurs aussi, mais en même temps, quand le Big Boss se plaint conférence après conférence, ben ça ouvre la porte aussi aux joueurs à faire la même chose. Je reviens à ce que Zachary Broguillard a fait plus tôt cette année en disant « mais vous savez, cette question-là, je la trouve pas intéressante, j'y répondrai pas. » Mais si le patron, le coach, fait ces genres de commentaires-là en conférence d'après-match, bien c'est sûr que ça donne le ton aussi pour les joueurs. Ça va être intéressant de voir le bilan de fin de saison. On espère encore
Olivier,
être loin. Ça va être intéressant de voir au bilan de fin de saison. Oui, mais ça va être intéressant de voir au bilan de fin de saison. Ça va ressembler à quoi comme commentaire d'Olivier Renard?
Probablement juste un petit droit de réponse. Je ne sais pas si quelle est vraiment la lecture en fait, comme de ces commentaires de Thierry Henry au niveau justement de localisation, de l'effet sur le mental du groupe. Est-ce qu'il se place comme un espèce de paravent et qui veut défendre ses joueurs parce que c'est un ressenti global qu'il y a dans le groupe, ou genre comme ou c'est simple, c'est une façon de se dédouaner des résultats. Je pense quand même que c'est sûrement le groupe qui est le plus affecté par cette situation et qu'il souhaite l'ensemble des joueurs auraient souhaité jouer à domicile, etc. Et qu'il y a une vraie difficulté à jouer à l'extérieur. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a, il y a pas. Je pense même que Olivier Renard l'a reconnu durant la conférence de presse où expliquait que les résultats ont quand même changé lorsque l'Impact s'est retrouvé au New Jersey. Donc, peut-être que voilà, donc je sais pas. Quand parfois que Thierry Henry, quand il critique, il est trop sévère sur ses joueurs. Quand il amène les circonstances, peut-être qu'il fuit ses responsabilités. C'est un peu difficile quand même de lire ces commentaires.
Ouais, bien, dédouaner ses joueurs. Rommel Kyoto qui passe dans le tordeur la semaine passée. Balou en dessous de l'autobus. Clément Baillant en dessous de l'autobus. Je veux dire, protéger qui, là, cette année?
Non mais c'est ça. Genre comme quand justement quand lorsqu'il pointe les erreurs de ses joueurs, il est trop critique. Lorsqu'il parle genre, comme du contexte dans lequel ils évoluent et pour lequel c'est pas facile pour eux, ben à ce moment-ci là il sert des excuses. Je voilà, je trouve c'est difficile, c'est difficile. Il faut
Moi, je trouve que c'est très, très aléatoire d'essayer de comprendre sur quoi Thierry Henry se base pour
Oui.
offrir ses réponses. Regarde James Pantemis, t'as Omar Sejdic, t'as Shamit Shaume et t'as Olivier Renard qui ont tous eu plus de commentaires positifs à offrir sur James Pantemis que le coach lui-même. Je veux dire, ça servait à, c'était pas vraiment difficile de dire, il a été shaké en début de match, il y avait clairement des papillons dans l'estomac, puis après, il s'est replacé, il a fait des gros arrêts. Non, c'est pas ça. On l'a senti nerveux au début, puis après ça, il a grandi un peu. C'est le début d'un gars. C'est le début de sa carrière en MLS. Je veux dire, c'est un gimme, là. T'as un match où t'as rien de positif. Bien, t'as quelque chose d'intéressant. T'aurais pu perdre 5 à 2 dans ce match-là si c'était pas de Pantémis.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est
Tout à
là où
fait.
j'ai de la difficulté, moi, à acheter le fait que de parler du contexte, c'est pour protéger ses joueurs. Tu veux protéger des joueurs, bien, débarque Wanyama, débarque Samuel Piette une fois de temps en temps, puis tu vas les protéger, parce que là, on s'en va vers une blessure là, au cours des prochains matchs, ou même en fin de semaine pour un de ces gars-là. Il n'y a personne qui a le droit d'être surpris. C'est Wanyama ou Samuel Piette qui se pètent au prochain match.
Mais tu n'as
Non,
personne
effectivement,
d'un autre
effectivement.
côté, tu n'as pas grand monde à mettre dans ces rôles-là pour
Ben.
continuer, et cela peut-être qu'il y a une cassure dans la logique et dans la façon dont ça fonctionne, qu'il n'y a personne pour prendre le relais dans ce poste-là. Or, on a vu, parce qu'on en discute quand même assez régulièrement, que ce sont deux postes essentiels actuellement dans la dynamique de l'équipe et dans la façon dans laquelle Henry veut voir son équipe évoluer.
Mais Jean, Amar Sejdic, il y a un mois, Thierry Henry ne l'utilisait pas parce qu'il fallait garder de la solidité et il ne fallait pas débarquer les gars qui faisaient en sorte que c'était stable au milieu de terrain. Mais tu perdais des matchs. Là, tout d'un coup, Amar Sejdic, c'est la meilleure chose depuis le pain tranché. Il était où il y a 3 semaines quand tu pouvais donner un break à Samuel Piette et Victor Wanyama?
Non, je comprends ce que tu
Ben,
veux
il
dire.
joue.
Simplement, c'est vrai que ça fonctionne bien. Maintenant, je suis persuadé que d'une façon générale, il n'est pas encore au niveau
On est
au
d'accord.
niveau que Wanyama ou Piet sont capables d'apporter à l'équipe, au niveau à la fois dans le volume et à la fois dans l'évolution tactique, dans l'organisation dans laquelle l'impact est censé évoluer.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu regardes la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Leurs deux défenseurs centraux étaient sur le banc cette semaine. Ils ont gagné contre l'Impact pareil. Est-ce qu'ils sont au même niveau que Farrell puis Kessler? La réponse, c'est non. Mais à un moment donné, tu as besoin
Non.
de les faire souffler, ces gars-là, si tu les veux encore en vie à la fin de la saison.
Non, non, je comprends, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Par contre, j'essaie de comprendre la logique qu'il y a derrière. Pas
Et c'est
forcément
là.
en étant d'accord, mais
Non.
en disant, OK, je vois le fil, il y a un risque, il y a un risque. Je suppose que jusqu'à un certain point, il est assumé, il est calculé.
Bien, moi, là où j'accroche, là, dans le fond, puis on va résumer là-dessus, les gars, pour passer à notre segment en temps additionnel dans un instant, c'est que Thierry Henry, là, chaque fois qu'il nous offre des explications sur ses choix, ses décisions, en vase clos, je trouve toujours que ça a de l'allure. Mais après ça, quand tu compares au même genre de situation 2 semaines avant ou 1 semaine plus tard, là, tout d'un coup, c'est plus la même logique qui s'applique. Amar Sedic, là, en ce moment, il est hyper bon. Mais il y a 3 semaines, il était incapable de rentrer pour donner 30 minutes de repos à Samuel Piette dans un match où tu perdais 4-1 et tu jouais à 10. C'est là où je comprends pas là, comment le vent peut à ce point-là changer de bord en l'espace de 3 semaines. Et je le répète, en vase clos, les réponses ont de l'allure. C'est un peu comme Henri qui donne ses commentaires d'avant-match. On lui demande, Saphir Taider, qu'est-ce que tu penses du transfert? Ben, on va s'en parler après le match. Ben, avant le match, tu te dis, ben, c'est vrai, là, on va lui permettre de se concentrer sur la rencontre. Après le match, c'est quoi la réponse? C'est, ben là, est-ce qu'on peut se concentrer sur le match? On s'en parlera plus tard. Parce qu'à un moment donné, c'est super bien navigué. À quelque part, moi, je l'admire là-dedans parce que ça nous force, nous, à faire des liens avec ce qui s'est passé plus tôt dans la saison, avec ce qui s'en vient, avec la réalité d'un match à l'autre. Mais à quelque part, ça devient vraiment difficile de trouver un fil conducteur dans tout ça, Sid.
Oui, oui, c'est, y a tellement de paramètres. Sedic était présent au tournoi en Floride, après est sorti de l'équipe. En face, il y avait peut-être Jean-Com. C'est vrai que s'il y a deux joueurs qui sont incontournables dans l'effectif de Thierry Henry, c'est bien Piet et Wanyama. Donc, il fait face à une concurrence. Maciel était chaud. Il y a Taider était aussi le troisième joueur du milieu de terrain. Donc, c'est peut-être compliqué pour Sedic de revenir dans l'alignement. Il a souligné qu'il travaillait très fort à l'entraînement et qu'on arrive on est plus proche de ce qu'on veut de lui, comme dit Jean. Donc, il y a beaucoup de petites choses, un peu de cas par cas, on comprend pas trop forcément pourquoi. C'est vrai que peut-être un meilleur travail d'explication de ces choix, et ça je pense que c'est quelque chose qui devrait faire, est nécessaire. Ensuite, après il y a des réalités, il y a de la réalité que le résultat n'est pas bon. Si il commence à encenser Pantémis, l'équipe prend 3 buts. Pareil pour le premier départ de Kari Fayao, on est content pour lui, premier départ, mais l'équipe prend 4 buts contre New England lorsqu'il commence. Donc il est un peu parfois tiraillé entre le contenu et le résultat, et qu'au final, peut-être qu'un peu la même manière qu'Olivier Renard dit, de toute façon si je X, vous ne serez pas content à cause d'Y, c'est effectivement comme il y a ces risques-là. Maintenant, c'est aussi au coach de donner le là, d'avoir le message qu'il veut transmettre et d'en assumer les conséquences. Moi, je reste persuadé que le message qui est transmis aux médias n'est pas forcément le même qui est dans les vestiaires, et qu'il y a des choses sur lesquelles on va inférer des messages ou des situations qui ne sont pas forcément comme perçues de la même manière entre le coach, entre le staff et son vestiaire.
Tu parles d'Olivier Renard, Sid, et tu parles de messages qui ont été passés. Comment tu as interprété? Tu me fais penser à ses commentaires en tout début de conférence de presse, si je ne me trompe pas, quand il a parlé justement de ces situations-là qui sont complexes à vivre aux États-Unis, mais qu'à quelque part, on était au courant, puis là, il faut se concentrer, mettre le focus ailleurs. Quand Olivier Renard dit « Moi, je m'attends à ce que vous, les médias, vous ayez un regard objectif sur la situation », on est conscient que c'est des circonstances compliquées, mais que vous restiez objectif, il veut dire quoi? Quand il dit ça?
Oui, c'est à la décharge des médias, c'est jamais les médias qui amènent la délocalisation, qui amènent toute la difficulté inhérente que vit le groupe. C'est jamais les médias, et ça, je vais le répéter, c'est bien Thierry Henry qui trouve toujours un moyen de placer ce type d'information dans ses réponses. Maintenant, sur l'aspect des questions foot qui sont posées. Moi, je pense que Olivier Renard veut aussi remettre le focus sur peut-être un peu le rôle médiatique dans sa manière générale, sur l'analyse et la critique du contenu de l'impact de Montréal, et non pas des circonstances. Donc, comme on parle effectivement beaucoup des circonstances, mais si on arrive sur la partie de contenu, il y a beaucoup à dire, et beaucoup à dire qu'on, selon moi, finalement, on ne parle pas assez. Ici, je crois qu'on met quand même l'emphase dessus, c'est intéressant, mais il y a beaucoup à dire. Les erreurs individuelles dont je parlais en début, ces erreurs défensives-là, elles sont présentes. Le manque, enfin, l'alignement de la défense à 5, qui est en fait une défense à 3, parce que finalement, on attaque sur les ailes et qu'on apprend par la bande que finalement, Broguillard, et c'est plus lui qui est en concurrence avec les balous de cet effectif-là, plutôt que comme de penser que c'est ailier contre ailier. Non, c'est une animation offensive qui fait en sorte que les Broguillard et les Corrales de ce monde sont en concurrence avec les ailiers purs de l'effectif. Le rendement de Kyoto, le rendement comme de Piet ou de Wanyama, c'est vrai que finalement Wanyama qui a évolué comme plus haut sur le terrain dans les deux derniers matchs, c'est balayé dans les analyses ou la conférence de presse où finalement on parle beaucoup plus de est-ce qu'on a 17 joueurs, 13 joueurs à disposition, est-ce que si, est-ce que ça, qui sont des circonstances mais qui ne sont pas directement le contenu du match. Et je pense que Olivier Renard voulait remettre ce focus sur cet aspect-là. Je crois qu'il n'avait pas été critique envers les médias, mais non. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'écarte un petit peu de sa perception qu'il a, lui, du rôle des médias envers l'entraîneur.
Maintenant, ça va être intéressant. On va poser des questions foot, Sid, puis on va voir si on a des réponses. Parce que quelque part, poser des questions dans le mur, puis se faire répondre du vent, puis je veux pas, c'est sévère un peu, là, mais souvent, on n'a rien.
Non, c'est souvent ça.
Les réponses d'Olivier Renard et les réponses de Thierry Henry, c'est sûr qu'ils opèrent dans des domaines différents, c'est dans deux univers qui sont même pas proches de se côtoyer. Olivier Renard, il y a de la substance. Souvent, Thierry Henry donne une réponse pour que vite, on passe à autre chose ou qu'on reparle du fait que c'est compliqué aux États-Unis. Jean, excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Non, tu ne trouves pas qu'il y a, quand tu présentes les choses un petit peu comme vous présentez les choses un petit peu comme ça, il y a quand même un parallèle. On pourrait changer le nom et mettre José Mourinho à la place. Hein?
Oui, le seul truc, c'est que José Mourinho, il a commencé à se pointer comme ça à Stamford Bridge, champion d'Europe.
Non, c'est
oui,
sûr.
Très bon
c'est
point. Sûr. Mais c'est vrai, non, les gens comme Jean, c'est effectivement.
Il y a toujours eu une volonté un petit peu de déplacer le narratif, de changer un petit peu le focus pour une raison qui est probablement protéger son groupe pour qu'on essaye un petit peu de leur mettre peut-être un peu moins de pression, sachant qu'elle vient naturellement à l'intérieur de l'équipe et dans les conditions dans lesquelles elle est. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, je dis, la façon dont on en parle, on a vraiment l'impression que Thierry qu'il y a une démarche consciente de déplacer le discours.
Mais je trouve ça super intéressant.
Il joue pas le jeu. Olivier, pose une question.
Je vais juste continuer un instant. Jean, ce que je trouve fascinant dans cette comparaison-là, puis Sid, je vais te laisser conclure après, c'est que José Mourinho, là, qu'est-ce qui a fait son succès la première fois à Stamford Bridge? C'est qu'il ramassait ses gars dans le vestiaire, puis il les protégeait en public. Là, en ce moment, c'est le contraire. Je ne peux pas dire que c'est le contraire, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais chose certaine, ce n'est pas la grosse protection en public. Tu as des Maciel qui ont été encensés à Mercedes, mais Rod Fanny et Boyan sont passés dans le tordeur au tournoi MLS is back parce qu'il a fait des changements au deuxième match quand on lui a demandé pourquoi tu as fait ces changements-là. Au lieu de dire, c'est un laboratoire, c'était basé sur les performances lors du premier match. Romel Kyoto, qui est ton meilleur marqueur, tu chiales parce qu'il a fait, il a raté une échappée, alors que le mois précédent, tu disais, moi j'en ai passé des matchs où pendant 7 rencontres, je ne marquais pas puis j'en ratais des échappées. L'important, c'est de se créer des occasions. C'est là que je vois un décalage. Sans, en plus, avoir cette crédibilité-là, d'avoir gagné ailleurs, d'avoir eu l'expérience d'être adjoint à Bobby Robson à Barcelone, d'avoir coaché au FC Porto. Et c'est là où je trouve ça dangereux d'avoir des positions qui sont à ce point-là fermes et à ce point-là sévères envers tes joueurs publiquement. Si tu le penses en privé, c'est une chose. Mais Clément Baya, là, quand il se fait dire qu'il n'a pas fait une bonne entrée, il n'a pas été bon, Baya. On s'entend là-dessus. Mais il fait une mauvaise entrée. Tu le dis publiquement que tu n'es pas satisfait de son introduction et Balou non plus. Puis après ça, le match suivant, tu le débarques. Si tu ne l'avais pas ramassé publiquement après le premier match, tu sais, tu es capable de le protéger un peu, mais là, tu le sors au deuxième. C'est fini mentalement pour le reste de la saison, Clément Baya. Et sur ses performances, c'est peut-être mérité qu'il ne rejoue pas, mais mentalement, tu l'as complètement perdu. Et c'est là où je trouve que ce n'est pas aussi raffiné que ça l'a déjà été pour José Mourinho.
C'est... Alors, exactement. C'est certainement pas aussi raffiné, ça, je suis entièrement d'accord. Ça demande un savoir-faire, de l'expérience aussi, parce que je pense qu'il n'a pas toujours été comme ça. Dans le cas qui nous intéresse ici de Henry, je pense qu'il y a besoin d'être capable d'identifier les joueurs pour lesquels c'est parfois nécessaire de mettre cette pique et de les mettre sur le devant de la scène, parce que je pense qu'il y en a certains qui réagissent beaucoup plus fort dans ces situations-là, et d'autres, au contraire, où il faut être capable de les remonter à l'intérieur du vestiaire, de remonter sévèrement, mais ne pas ça ne sorte pas du vestiaire. Mais c'est peut-être là qu'il y a, je dirais, encore un processus d'apprentissage, parce que clairement, il y a des joueurs qui sont critiqués et qui ont publiquement et qui ont du mal à le vivre. Ça, c'est tout à fait clair.
Bon, là, je suis en train d'avoir un nez comme Pinocchio à vous dire qu'on va conclure ça depuis à peu près 15 minutes. Mais Sid, je te donne la vraie conclusion. Vas-y, Sid, termine-nous ça,
oui,
cette discussion-là,
ben,
parce que c'est super intéressant.
Pour moi, un seul mot, comme Thierry Henry, il ne joue pas le jeu. Une question que t'as posée au niveau de l'absence complètement injustifiée, ben, pas injustifiée, ben, injustifiée au moment où ils sont absents, de Taider et de Broguillard, blessés. C'est littéralement, comme je vous invite à regarder la conférence de presse, je pense qu'il dit injured, parce que tu avais posé la question en anglais. Je trouve que il ne joue pas le jeu et ça le dessert. En toute honnêteté, ça le dessert parce que il y a des moments où il a vraiment des véritables balles courbes pour mettre la table, expliquer ses intentions, et parfois même dans certaines réponses, il le fait très bien et c'est intéressant, mais globalement, il ne joue pas le jeu des conférences de presse et ça le dessert. C'est une position qui est parfois passive, ou l'impression qu'il subit toutes les décisions, qu'il subit le contexte, et pourtant, en jouant un petit peu plus le jeu, comme dans son attitude et parfois même dans le fond, il y gagnerait beaucoup, parce que je crois que les fans de l'Impact de Montréal ont décidé que c'est une saison de transition depuis très longtemps et sont prêts à accepter pas mal de choses qui se passent, qui n'auraient peut-être pas été prêts à accepter, comme sur Rémigard ou Biello, et donc c'est décevant qu'il ne joue pas le jeu.
Et si ça ne te tente pas de les faire, moi, j'ai pas de problème, envoie tes adjoints. Mais là, en ce moment, on n'a même pas le droit de parler aux entraîneurs adjoints. Et je pense que c'est là que ça fait que c'est redondant. Puis quand ce qui est négatif est redondant, ben ça devient lourd pour tout le monde, que ce soit les joueurs au club, le staff, la haute direction ou les supporters et les médias. Jean, on y est finalement en temps additionnel. Parle-nous de cette représentation qui est, j'ai envie de dire, historique des joueurs américains en Ligue des champions de l'UEFA.
Ouais, c'est intéressant. En fait, je te dirais, je suis tombé dessus un petit peu en lisant un article sur Soccernet, qui est donc le organe de ESPN. Et bon, c'est très américain parce que c'est leur façon un petit peu d'alimenter et de se donner une sorte de contenu personnel. Mais c'est intéressant au niveau de l'analyse et du regard. Il n'y a jamais eu autant de joueurs américains et d'assez jeunes joueurs américains qui vont être présents en Ligue des Champions cette année et dans des grands clubs. C'est pas simplement dans des clubs, disons, de moindre importance qui les faisaient venir parce que le rapport qualité-prix était intéressant. Là, on parle de grands clubs. On parle de McKennie à la Juventus, de Serginho Dest qui vient d'être transféré à Barcelone, t'as Pulisic. Pardon, à Chelsea, Tyler Adams, à Leipzig, qui était demi-finaliste il y a quelques semaines, Reina à Dortmund. Donc, il y a une génération, et c'est vraiment quand même important, c'est du nombre, c'est de la qualité, qui a franchi ce palier supplémentaire, qui se retrouve dans des gros clubs en Ligue des Champions. Et Greg Berhalter, le sélectionneur américain, a dit c'est directement lié. La qualité d'une sélection nationale peut être, on peut faire une corrélation avec la représentation de cette sélection en Ligue des Champions, et on voit que c'est la marche et la marque d'une montée en puissance et d'une montée en qualité qu'il faut prendre en compte. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, on va pouvoir en discuter rapidement, mais d'éléments d'analyse. Bon, il y a eu Casey Keller qui a dit oui, mais à condition qu'il soit titulaire. Bon, ça c'est un discours c'est un petit peu. On se rend compte que bien sûr, ça c'est tout à fait logique. Ce qui est intéressant, c'est de dire ok, ces joueurs-là réussissent. Est-ce que c'est la réussite du programme de formation américain? Parce qu'il faut peut-être en parler là, mis en parallèle avec le fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui intègrent aussi au pays des équipes de la MLS, des joueurs qui sortent de l'académie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bien fonctionner, et qu'au bout du compte, on peut arriver à un petit peu faire l'analyse, ou la synthèse plutôt de, tu sais, il y a eu, on a expliqué l'échec pour 2018, la non-qualification, pour le fait que on ne savait pas trop est-ce qu'il fallait privilégier les joueurs venant de la MLS en sélection, les joueurs étant basés en Europe, et je crois que là maintenant, la réponse, elle saute aux yeux. Il va falloir être capable de faire une synthèse de ça pour les années à venir. Et je pense que la sélection n'a jamais été aussi bien placée pour y arriver.
Bon, là, tu viens de nous annoncer la non-qualification des États-Unis pour le... Non, les Américains vont se qualifier, j'en suis certain. Mais c'est vrai, c'est vraiment intéressant parce que là, j'ai l'impression que pour la première fois, tu as vraiment un équilibre de joueurs hyper performants qui jouent dans des clubs qui sont tout autant en Europe et des gars de MLS qui vont réussir à se tailler une place dans cette sélection-là. Ça va être très intéressant à suivre. Et là, Sid, je veux t'entendre parce que ces joueurs-là vont peut-être éventuellement, si Arsène Wenger décide de tout ça, profiter de quelques règlements qui pourraient accélérer le jeu, le rendre plus excitant. Je vais absolument vous entendre, Sid, on va commencer par toi sur ces propositions qui ont été faites par Arsène Wenger. Je vais y aller quand même assez rapidement. D'abord, pour les hors-jeux, sa proposition serait d'avoir un attaquant qui reste en jeu à partir du moment où il y a une partie du corps avec laquelle on peut marquer et est aligné avec le dernier défenseur. Donc, tu gardes un petit bout d'orteil à quelque part en arrière, là, puis tu es capable de partir en échappée puis de te donner un bon mètre d'avance. La deuxième chose, c'est des coups francs qui pourraient être pris pour toi-même. La troisième, des rentrées de touche au pied dans ta propre moitié de terrain. Si je sais qu'il a dit dans la foulée là, pour les 5 dernières minutes, ça devrait être un avantage, mais je pense qu'il parlait de 90 minutes là, pour cette règle-là, mais c'est particulièrement en fin de rencontre, selon lui, que ça pourrait être intéressant. Et finalement, les corners, lorsque c'est des corners sortants, bien, on pourrait les faire quitter la surface de jeu derrière le gardien pour revenir finalement dans la surface de réparation, chose qu'on ne peut pas faire maintenant. Tiens, commençons par ce dernier-là. As-tu l'impression que c'est suicidaire pour les gardiens? Ça, il me semble, un gardien face à son propre but avec des monstres qui arrivent en arrière. Toi, tu essaies d'attraper ça. Il me semble que ça évite un paquet de blessures pour les gardiens, non?
Oui, non, c'est bizarre quand même, un ballon qui sort des limites du jeu, genre comme toi, tu vois que ton poteau, et après, genre comme tu dois faire face à la vague. Je crois que pour les situations dans lesquelles ça arrive, sûrement peut-être 0,1% des tirs, je crois que les joueurs peuvent faire un effort au niveau des courbes, et que voilà, donc comme parfois, si c'est mettre un gaucher pour un corner en franc, comme du côté opposé, il y a quand même 10 autres joueurs sur le terrain qui peuvent le tirer. Donc ça, je suis pas trop certain de comprendre à quoi ça répond. Et en fait, même globalement, je suis pas forcément très au fait de quelles sont les solutions en fait, genre, comme que quels sont les problèmes. Tantôt t'as parlé comme d'accélérer le jeu. Je suis pas sûr par exemple que tirer un coup franc pour soi-même, sachant que les joueurs ont déjà toute la misère du monde à se mettre au point où a été fait la faute. Si en plus le joueur il est juste à 3-4 mètres et après il part, j'ai pas l'impression qu'on va forcément accélérer le jeu. On va sûrement se trouver dans une situation où l'arbitre va toujours encore plus qu'avant devoir reprendre, enfin devoir arrêter le jeu. Donc, au niveau du jeu... Oui, vas-y, excuse-moi.
Mais, ouais, Sid, je veux juste t'interrompre là-dessus parce que je vais donner un fait de jeu hyper précis. Parce que c'est vrai ce que tu dis souvent, tu n'es pas capable de réorganiser le jeu parce que le ballon n'est pas à l'endroit où ça a été pris. Mais mettons qu'il y a une faute. Les deux joueurs tombent par terre. Le gars qui défend, qu'est-ce qu'il fait toujours? Bien, il se place et il ne respecte pas la distance, right? Fait qu'il t'empêche de relancer tout de suite. Si tu pouvais juste prendre une petite touche pour toi-même, décaler le ballon, et après ça, balancer pour un attaquant, là, ça devient un outil qui est intéressant. Et si le joueur qui est en face, bien, il t'empêche de jouer ce coup franc-là, bien, tu peux lui donner un carton jaune. Donc, je pense que pour certaines séquences, certains faits de jeu qui souvent cassent le rythme défensivement, bien, là, ça te permettrait de contourner cette réalité-là.
Exactement. Il y a aussi un côté de. C'est, quels sont les champs d'application des différentes idées que Arsène Wenger a proposées. Et ensuite, donc, au niveau, je pense, si je me souviens bien, des touches. Bon, moi, je ne suis pas très fan des touches au pied. J'ai encore peur des ralentissements. On voit, j'imagine, le joueur qui quand même parcourt 30 mètres parce que c'est peut-être le plus doué de l'équipe dans le jeu long et que tout d'un coup, ça devienne vraiment encore une source d'arrêt de jeu fréquent. Donc un petit peu de misère avec l'idée. Et bah, pour les hors-jeux, bah, écoute, l'hors-jeu, moi je suis pour que de donner la prime à l'offensive. Donc genre, comme s'il y a une règle parmi les quatre qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Maintenant, bon, est-ce que c'est pas concrètement déplacer le problème? Parce que ça restera toujours des questions de centimètres et d'interprétation, je sais pas, mais c'est la règle qui me plaît le plus sur les quatre.
Et toi, Jean, si tu regardes les rentrées de touche, un règlement Rory Delap, gracieuseté de Arsène Wenger, avec des rentrées de touche que tu peux balancer dans la surface adverse de ta propre moitié de terrain, serais-tu pour ça?
Yeah, c'était énorme. C'est certain que il y a eu une grosse évolution dans ce domaine-là, la remise en jeu sur touche. Tu as pu voir, parce qu'on en a pas mal parlé, que Liverpool s'était attaché les services d'un spécialiste dans ce domaine-là. Et qu'il a, dans le calcul, il a pu faire progresser la qualité, la longueur des remises en touche de pratiquement tous les joueurs, en particulier ceux les plus concernés. Donc la remise en touche. Moi, je te dirais, comme pour beaucoup de propositions comme ça, essayons. Essayons, et puis c'est à l'utilisation qu'on va voir. Je vois un petit peu l'utilité. Quand il parle des 5 dernières minutes, oui, parce que tu sais bien comment ça se passe. Tu mènes ou tu es qualifié et tu as le ballon en phase d'attaque dans les 5 dernières minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde va vers le poteau de corner et puis essayer de tricoter par là, le garder. Le ballon, tu as de bonnes chances qu'il sorte en touche. L'adversaire veut faire une remise en touche. Tu le bloques complètement. Il ne peut pas progresser. Donc, l'idée là de mettre un gros ballon de 30, 40 mètres et de sauter cette poche de pressing, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis, au départ, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui est possible de faire. On va trouver, parce qu'il y a toujours des petits malins, et là, on va reparler de José Mourinho, mais il y a toujours des petits malins qui vont être capables de trouver. Hey, quand on fait une avance au niveau des règlements, il y a toujours quelqu'un qui va être capable de trouver la petite bête et de trouver le point noir ou de trouver la façon de l'utiliser, cette progression, d'une façon un petit peu différente, disons. Mais je crois que ça vaut le coup de l'essayer. Pour ce qui est du hors-jeu, je crois que c'est tout à fait catégorique dans la mesure où l'ensemble des règles dit, par exemple, quand le ballon sort du terrain ou qu'un but est marqué, le ballon doit être entièrement au-delà de la ligne. Bon, ben là, l'attaquant devra être entièrement au-delà de la ligne de l'avant-dernier défenseur pour qu'on puisse se considérer hors jeu. Je pense qu'il y a une logique, et une logique qui va avec toutes les directives qu'on a depuis quelques années, et en particulier depuis la VAR, qui est d'attendre et d'une certaine façon être capable de laisser le plus longtemps possible l'avantage à l'attaquant. Donc, je pense qu'une prime qui correspond un petit peu à ce que Wenger a toujours un petit peu demandé.
Ouais, là, on avait réussi à passer toute une émission, Jean, sans parler de la VAR, puis tu nous as ruiné ça dans les dernières minutes. On était certain d'être capable de s'en tirer. Moi, juste pour finir là-dessus, on s'en va au sujet chaud, les gars, mais les coups francs pour soi-même, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le kid en moi qui aimait ça regarder le football australien quand j'étais plus jeune, et j'aime
Oui, c'est
cette
vrai.
idée-là d'être capable de
C'est vrai.
recommencer tout de suite. Comme quoi, l'Impact de Montréal pourrait regarder des matchs de Geelong puis s'inspirer un peu des Aussie
Yeah.
Rules. Ce serait extraordinaire. Allons-y maintenant avec les sujets chauds. Sid, on va commencer avec toi. Patrick Beaudoin nous demande, est-ce que Wanyama devrait en donner plus chez l'Impact de Montréal?
Oui. Je pense que Wanyama est venu pour plusieurs choses. Effectivement, combler un petit peu ce rôle de milieu central, de plaque tournante, apporter du muscle aussi, apporter une expérience. Mais je pense qu'on l'a clairement vu contre Philadelphie, comme si je me trompe. Ben Wanyama, plus proche de la surface de réparation, Wanyama qui tire 3 à 4 fois au but, c'est aussi un joueur qui a une autre dimension, une facette de ce qu'il nous a montré finalement, ce qui n'était pas mal, ce qu'il nous a montré depuis le début de saison. Mais on a vu beaucoup plus sur ce match-là, et on a vu aussi, surtout un Wanyama qui ressemblait plus à ce qu'on voyait à Tottenham dans son agressivité, dans sa capacité à se projeter vers l'avant. Et donc je pense que malgré la défaite, sa performance individuelle doit devenir son standard. Et je pense que oui, je suis d'accord avec notre auditeur. on peut s'en attendre de plus de Victor Wanyama, parce que si là on avait dit que c'était ça qu'on aurait de Victor Wanyama sur l'ensemble de la saison, est-ce que ça valait la peine vraiment d'aller le chercher pour remplacer Piet? Pas sûr à ce prix-là que ça aurait été le bon choix.
En même temps, as-tu l'impression qu'en ce moment, Victor Wanyama, c'est comme un gars qui finit un ultra Ironman, puis tu es en train de dire « Ah ouais, vas-y plus vite pour arriver au fil d'arrivée ».
Oui, c'est vrai. C'est pas... On va pas parler des circonstances. mais je pense que moi, vraiment, simplement, autant j'étais globalement satisfait de ce que montrait Wanyama, autant à ce match-là, je me suis dit « Ah oui, en fait, il a montré beaucoup plus que ça. » et je souhaite que ça devienne son standard. Est-ce que quand ce sera un match par semaine, à domicile, etc., patati patata, ce sera ce qu'on verra. Mais c'est légitime d'attendre plus de lui.
Jean, on va y aller maintenant avec la question de Thomas Villeneuve, qui est super intéressante, parce que là, on tombe dans la philosophie de ce qui se passe partout sur la planète. On s'éloigne un petit peu de l'impact de Montréal. On va y revenir avec Mathieu tantôt. Thomas nous demande, est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition du profil classique d'un numéro 10, comme les Özil, Mata, Oscar, des joueurs qui ont des qualités techniques exceptionnelles, une très bonne vision du jeu, hors normes, selon Thomas, mais qui apportent pas beaucoup défensivement?
Il y a deux... OK. Il y a une question là. D'abord, le numéro 10, ça fait, je pense, pas mal de temps qu'il ne correspond plus du tout à ce dont on... qu'on envisageait avant comme numéro 10, numéro 10 à la Baggio, numéro 10 à la Mara. Évidemment. Ça a beaucoup d'avoir capable de d'avoir ce temps-là, d'avoir ce temps-là. Il est obligé d'être à...
Okay, parfait. On est désolé, on a des petits problèmes techniques. Sid, tu peux peut-être enchaîner avec ça. Dans le fond, ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Ça fait un bout de temps, on a peut-être été un peu nostalgique, romantique par cette idée de numéro 10-là. Quand on parle de Baggio puis Maradona, c'est sûr que là, il y a un gros décalage entre les deux. Maintenant, d'un point de vue défense, par contre, ça devient intéressant parce que tu peux avoir les profils de joueurs. James Rodriguez s'en plaignait, entre guillemets, là, dernièrement, en disant ce flair-là, des gars qui voient le jeu différemment, on met moins l'accent là-dessus. C'est sûr qu'avec des coachs comme Jurgen Klopp, par exemple, qui demandent toujours d'être en pressing, même chose pour Pep Guardiola dans des circonstances différentes, mais qui demande beaucoup défensivement à ses joueurs, même les plus doués, ceux qui ont le plus de flair, je pense que la réponse, ça peut être oui.
Oui, c'est certain. Mais aujourd'hui, tout le monde défend d'une façon ou d'une autre, à la perte de balle, c'est tous ces concepts de contre-pressing, gegenpressing. C'est certain qu'on ne peut pas avoir un joueur qui serait exempt de tâches défensives, même du niveau de d'Ozil ou de la liste des joueurs qui ont été cités, c'est impossible. On a un jeu qui a évolué, mais je sais pas, quand on parle de romantisme et de nostalgie, je pense que c'est vrai qu'il y a une mythologie autour du numéro 10 qui a aussi. Rames disait que les joueurs ne veulent plus être, les enfants ne veulent plus être numéro 10. Mais c'est faux. Un Kylian Mbappé qui n'a pas du tout le profil d'un numéro 10 veut prendre le numéro 10 en équipe de France. Ce numéro va toujours être spécial dans le foot. Agüero à City prend le numéro 10, alors que bon, De Bruyne devrait techniquement l'avoir, ou Silva. Mais je pense que voilà, ce numéro va toujours avoir quelque chose de spécial. Maintenant, le rôle que ce numéro avait, ça a clairement évolué. Je pense que l'animation offensive est très différente. Les milieux de terrain se sont densifiés et c'est compliqué d'être un numéro 10 comme à l'ancienne, même si je te dirais qu'il y a aussi une mauvaise perception de qu'est-ce que t'étais un numéro 10 avant. Le numéro 10 était souvent l'accélérateur du jeu et je crois qu'on pense très souvent à un numéro 10 un petit peu comme simplement la plaque tournante, alors que on voit lorsqu'on voit les idées du football des années 80, un jeu qui est plutôt lent, et celui qui était le détonateur, C'était le numéro 10. Donc, il y a aussi cette perception-là qui est peut-être pas juste. Maintenant, demande aux fans de l'Impact de Montréal quel est le poste qu'ils voudraient le plus recruter. Et ils vont tous te dire à l'unanimité un numéro 10. Donc, ça n'a pas disparu. Ça a toujours quelque chose qui va être central pour les fans. Maintenant, ça a évolué. Ça a évolué, ça c'est sûr.
Un petit mot peut-être en terminant, Jean, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques au cours des derniers instants. Peut-être en quelques secondes de résumer cette idée-là, cette réflexion-là sur le numéro 10.
Oui, je crois, comme tu dis, c'est un poste qui a évolué énormément et qui subit l'évolution des tactiques, peut-être plus que beaucoup d'autres postes. Plus de pression, il est obligé de jouer. Oui, c'était un accélérateur, mais c'était souvent sur sa qualité de distribution du jeu, pas sur sa qualité forcément de réaction. Maintenant, ce qu'on voit, et je pense que peut-être on va revenir à des numéros 10 un petit peu plus classiques. Regarde la dernière finale de Ligue des Champions. Tu vois un joueur comme Neymar. Non, on ne lui demande pas de défendre. Pourquoi ? Parce que le système de jeu que le PSG avait adopté, c'était d'essayer de contrer le gegenpressing à la Klopp, hein, c'est-à-dire de revenir dans le pressing et dans la récupération de balles très très rapide dans les pieds du Bayern pour tout de suite aller relancer des deux joueurs qui sont Neymar et Mbappé à un moment où on casse la possession de l'adversaire, on crée le déséquilibre. Donc tes deux attaquants, ton numéro 10 et ton attaquant, doivent être libérés de travail défensif et être capables de repartir tout de suite vers l'avant. On leur dit: vous attendez, vous êtes prêt à partir. Donc, c'est peut-être dans ce rôle-là qu'on va voir des nouveaux numéros 10.
C'est donc conclu avec une question de Mathieu Tremblay qui nous demande: est-ce que l'Impact de Montréal devrait mettre un accent important sur un défenseur central dans son recrutement, mais surtout un défenseur central sur lequel on peut construire pour le long terme? Je présume que ça fait référence au fait que Louis Binks pourrait s'en aller très, très bientôt à Bologne, que Rod Fanny est en fin de carrière. Qu'est-ce que tu penses de cette priorité-là? On a beaucoup parlé, tu l'as dit, du numéro 10, des attaquants. Est-ce que la défense en fait partie maintenant?
Mais c'est une évidence. Je pense que c'est le poste qui, c'est le dans l'effectif de l'Impact de Montréal, c'est le plus gros trou. Je pense qu'en termes de Fanny, on l'a vu, il a 39 ans. Rod, il apporte beaucoup, mais c'est pas possible. Binks qui est déjà parti. Camacho n'est pas le joueur sur lequel l'Impact va bâtir sa défense sur les prochaines années. Ensuite, on arrive avec des joueurs comme Waterman, c'est tendre. Yao, c'est trop tôt. Il y a un trou à combler. Impérativement, je dirais même, pour l'Impact de Montréal dans la défense centrale. Maintenant, bon, j'espère que le prochain joueur ne fera pas le baptiser Van Dijk et penser que voilà, que ce sera le meilleur joueur de la ligue, etc. Mais on a besoin d'un joueur entre 24 et 27 ans qui est vraiment capable d'assumer ce rôle pendant 30 matchs et pas se faire expulser tous les 3 secondes pour être le patron de la défense de l'Impact de Montréal.
Très intéressant. Tiens, comme quoi Olivier Renard n'en avait pas déjà assez dans son assiette pour recruter des joueurs en vue de 2021. Ça y fait un autre élément à mettre sur sa liste pour le temps des fêtes. Tiens, va-t-il en avoir un temps des fêtes? Ça va-t-il être annulé? Chose certaine, qu'il y ait des Noël ou pas cette année, Olivier Renard va être bien, bien occupé à la fin de l'année. Les gars, toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci, Olivier.
Merci, Olivier.
Et merci à vous d'avoir été à l'écoute, de nous avoir posé vos questions aussi sur Twitter. Continuez de le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF, ainsi que de consommer et de partager notre contenu sur le rds.ca/baladodiffusion et sur iHeartRadio.